Bonjour, bonjour, Yves au micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne saurait déroger à sa tradition et qui par conséquent vous rappellera ou vous apprendra si vous nous rejoignez ce jour pour la première fois, bonjour, que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent quelque part depuis 1895 et des poussières. Je rappellerai aussi, je ne le fais pas à chaque fois, mais de temps à autre, ça fait du bien, que le générique de notre émission est bien évidemment une musique de film, en l'espèce celle d'un petit bijou, signé Blake Edwards. C'est de 1962, George Pippard et surtout Audrey Byrne en sont les principaux interprètes. Ça s'appelle Diamant sur canapé en français, Breakfast at Tiffany's in English. Et le compositeur, eh bien, c'est ce cher Henry Mancini qui, avec ce Moon River, compose un tube qui, sauf erreur de ma part, lui valut un Oscar et sans doute plein de millions de dollars bien mérités. Ce jour, dans 24 notes secondes, eh bien, nous allons rester de ce côté-ci de l'Atlantique puisque nous allons évoquer la carrière d'un compositeur italien qui n'a certes pas la renommée de Nino Rota, d'Ennio Morricone ou même d'Armando Trovajoli, mais Carlo Savina, c'est de lui qu'il s'agit, fut pendant une trentaine d'années un pilier de la musique de film italienne et ce, à deux titres que nous allons essayer d'illustrer musicalement. D'une part en tant que compositeur, puisqu'il s'essaya à tous les genres du cinéma italien des années 50 à 70, et puis surtout peut-être en tant qu'arrangeur des compositions d'autres compositeurs italiens ou autres, puisque parmi les compositeurs qu'il aura assisté, et les fans, j'en espère quelques-uns, de 24 notes secondes reconnaîtront leur nom, eh bien parmi les compositeurs qu'il a aidés, il y avait justement Ennio Morricone. Il y avait justement Armando Trovajoli ou Nino Rota, mais aussi des compositeurs étrangers comme Philippe Sard et même le grand Miklos Rossa, l'homme des partitions de Ben-Hur ou Quo Vadis, les flamboyantes partitions de Peplum des années 60. Carlo Savina, eh bien, il était né à Turin en août 1919, c'est mieux, et il est mort à Rome en juin 2002, ce qui lui fait quand même une vie assez conséquente. Et il était né dans une famille de musiciens. Son père était première clarinette, comme on dit, dans un orchestre. Et du coup, son éducation musicale est des plus soutenues, puisque Carlo Savina aura appris le piano, le violon, la composition et la direction d'orchestre. C'est-à-dire que nous n'avons pas affaire à n'importe qui, mais à un homme très aguerri. J'ai déjà été assez bavard. On va commencer à écouter quelques extraits qui vont nous permettre d'illustrer différents genres du cinéma italien des années 60. Et j'ai évoqué Ben-Hur et Quo Vadis en tant que Peplum, c'est-à-dire ces films qui reconstituent à l'écran l'antiquité grecque ou surtout romaine, supposée ou authentique, on n'est pas toujours vraiment sûr. Et si Ben-Hur ou Quo Vadis sont des super productions, eh bien le cinéma italien produisit quant à lui toute une série de Peplum à bas prix qui ne sont pas toujours d'une grande qualité, si ce n'est maintenant. Avec le recul du temps pour leur côté kitsch. On va écouter un extrait de la bande originale d'un film de Marino Girolami, sorti en 1962, la même année que Diamant sur canapé. Ça s'appelle La colère d'Achille. Bon, Achille, vous voyez qui c'est. On écoute un extrait et je débrief après, dans 24 notes secondes.
Thank you.
Voilà, je n'ai pas évoqué Miklos Rossa par hasard, vous vous en doutez, un extrait de la bande originale de La Colère d'Achille, un film de Marino Girolami et une musique de Carlo Savina, notre héros du jour. Et effectivement, il y a quand même des accents très rosaciens, je ne sais pas si on peut employer ce barbarisme dans cette partition, et ceux qui la connaissent auront un peu reconnu quelques airs de Bénure. C'était un peu le genre des péplums italiens, c'est-à-dire qu'on avait, on va dire, un dixième du budget d'un péplum américain, qui pour autant était tourné en Italie pour des raisons fiscales. C'était le cas de Bénure ou de Quo Vadis. On prenait des acteurs italiens qu'on dotait de noms américains, comme Gordon Mitchell, par exemple, dont je ne sais pas le vrai nom, mais il ne s'appelait certainement pas Gordon Mitchell, qui jouait le rôle d'Achille dans ce film. On prenait aussi des acteurs français, comme Jacques Bergerac, parce qu'il y avait aussi des raisons fiscales à avoir une coproduction franco-italienne. Et puis, on reprenait surtout des vieilles histoires, celles de l'Odyssée et surtout de l'Iliade d'Homère. C'était évidemment le cas d'Achille. Je vous rappelle Achille du côté grec, avec Agamemnon à la tête des troupes, et puis de l'autre côté, les Troyens, le cheval de Troie, tout ça. Et donc, le film illustrait un épisode où l'on voyait la mort de Patrocle, l'ami le plus fidèle d'Achille, si fidèle que d'aucuns, Orisco référence, ont songé qu'Achille, peut-être, eh bien, n'était pas vraiment du côté des filles, si vous voyez ce que je veux dire. Et évidemment, eh bien, Achille, après, il n'est pas content. Mais alors, il n'est pas content du tout. Et du coup, il va finir par tuer Hector, le héros troyen, parce qu'il est en colère, Achille. Hein. Ulysse, il est subtil, et Achille, il est en colère. Une vision un peu caricaturale du poème de l'homme aveugle, Homère, soi-disant-elle. A-t-il jamais même existé? Aucune importance. L'important, eh bien, c'est le fait que ces mythes se transmettent et que le cinéma italien des années 60 le fit jusqu'à plus soif, puisque, autre titre de Carlo Savina dans le genre, on a eu Judith et Holoferne, on a eu Sémiramis, déesse de l'Orient, Spartacus et les 10 gladiateurs, ça devait être pas mal ça. Et puis toute une série de Massiste, Massiste étant un personnage assez étonnant, une sorte de géant débonnaire et un peu débile, il faut bien le reconnaître, qui fit un gros succès dès le temps du cinéma muet italien et qui continua dans les années 60. Massiste à la cour du chef ou je ne sais plus quoi. Massiste contre les Mongols. Ah, il ne doit pas être mal celui-là. Massiste contre les Mongols. On va changer de genre, on va passer maintenant au polar, là aussi, polar de sous-catégorie, mais maintenant ce genre est devenu lui aussi kitsch, et sa ringardise même le rend presque cultissime. Et on va écouter un extrait de L'Espie uccidono a Beyrouth, je ne sais pas si je l'ai dit bien, mais je vais le redire en français, Les espions meurent à Beyrouth, un film de 1965, signé de Luciano Martino et de Mino Loi. Deux réalisateurs italiens qui n'ont pas laissé un très très grand souvenir. Et évidemment, vous l'avez compris, une musique de Carlo Savina dans 24 notes secondes. un jazzy très daté, mais ma foi plutôt bienvenu pour la bande originale des Espions meurent à Beyrouth, signée Carlo Savina, qui est peut-être le seul au générique de ce film à avoir conservé son nom italien, puisque les réalisateurs, Martino et Loy, comme je l'ai dit avant d'écouter le morceau, se sont rebaptisés Martin Donan, que le scénario est signé de Julian Barry, alias Ernesto Gastaldi, et que la photographie, enfin, le directeur de la photographie est Richard Thierry. Alors lui, il a un nom français, mais c'est peut-être aussi parce que le film est une coproduction franco-italienne. Bref, le méli-mélo des années 60, le joyeux méli-mélo des années 60 du cinéma de genre italien, avec le film policier qui s'illustrera aussi, évidemment, par des partitions magistrales d'Ennio Morricone, et puis aussi par des titres qui, moi, me font toujours rêver pour des films que je ne verrai peut-être jamais, comme Un joli corps qu'il faut tuer. Ah, ça donne envie de le voir. Ou alors, je l'adore, L'assassin a réservé 9 fauteuils. L'assassin a réservé 9 fauteuils. Bref, il y avait beaucoup d'inventions, surtout dans les titres, et beaucoup d'inventions aussi dans les films, parce qu'on le sait, souvent, l'économie de moyens, voire la disette financière, eh bien, c'est une occasion de stimuler l'imagination et l'ingéniosité des réalisateurs. Et côté ingéniosité et imagination, eh bien, les Italiens, ils ne le rendent à personne. Et autre genre illustré largement, magistralement, dans les années 60, le film d'épouvante. Les Italiens, dans les années 60-70, avec quelques réalisateurs assez connus maintenant comme Mario Bava, eh bien, furent de grands pourvoyeurs de films de sous-genre, là encore, les zombies, les vampires, les créatures, même aussi la science-fiction qui fut largement illustrée. Alors là, pour le coup, le côté kitsch est encore plus accentué. Et on va écouter un extrait de la bande originale d'un film de Camillo Mastrocinque, sorti en 1964, alors un petit peu avant le précédent, mais enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance, l'aspect chronologique en l'espèce. Ça s'appelle La crypte du vampire. Là encore, le principe elle-même, on prend une grande vedette américaine, ou plutôt anglaise dans l'espèce, puisqu'il s'agit de rien moins que de Christopher Lee, chapeau et silence, qui joue dans ce film le comte Ludwig von Karsten, et on lui adjoint évidemment quelques somptueuses créatures bien balancées, si vous voyez ce que je veux dire, dans lesquelles il va pouvoir planter ses crocs, et on embringue le tout dans un scénario vaguement inspiré du roman Carmilla de Sheridan Le Fanu, qui fut, avec le roman de Bram Stoker Dracula, l'un des inspirateurs du genre vampire, d'abord en littérature et ensuite au cinéma. Et puis on met une musique de Carlo Savina et du coup on l'écoute dans 24 notes secondes. Un extrait un peu atmosphérique de la partition de la crypte du vampire, un film d'horreur italo-espagnol de Camillo Mastrocinque avec Christopher Lee, excusez du peu, dans le rôle principal, et une musique donc de Carlo Savina. Alors on n'aura pas illustré tous les genres du cinéma italien, les sous-genres ou autres que vous voulez, des années 60-70, puisqu'il nous manquera le giallo, le thriller sanglant avec des meurtres commis par un tueur en série dont on découvre à la fin la personnalité. Genre dans lequel, là encore, Ennio Morricone s'est largement illustré, notamment avec Dario Argento et quelques autres. Mais on va se quitter, enfin, non pas se quitter, mais on va arrêter la litanie des sous-genres en n'ennuyant pas, évidemment, le western spaghetti qui fut, là encore, dans les années 60, là encore avec Ennio Morricone et Sergio Leone, ai-je besoin de le souligner, à des cinéphiles aussi avertis que les auditeurs de 24 notes secondes. Eh bien, là encore, il y eut des dizaines, peut-être même des centaines de films de genre. On oubliera aussi que le western spaghetti était plus souvent tourné en Espagne qu'en Italie, mais enfin c'est du spaghetti, hein, c'est pas de la paella. Peut-être que western paella, ça aurait pas été mal non plus, à vrai dire. Et on va écouter un extrait de la bande originale de Ringo Pistolet d'Or, un film de Sergio Corbucci. Alors voilà encore Sergio Corbucci, un gars qui aura bien contribué à tous les genres. Peut-être qu'il aura réalisé 300 films pendant toute sa carrière. J'exagère un petit peu quand même, mais enfin, il en a réalisé un bon paquet et personne n'aura oublié évidemment sa contribution Stone, on va dire, au duo que formaient Terence Hill et Bud Spencer. Un petit mot quand même pour Terence Hill et Bud Spencer, bien oublié aujourd'hui, et une émission spéciale. Ah bah tiens, ça c'est promis, une émission spéciale Bud Spencer, Terence Hill dans 24 notes secondes. En attendant, on écoute un extrait de la bande originale signée Carlo Savina de Ringo au pistolet d'or. Thank you. Quelques petits ratés de bande passante dont vous voudrez bien nous excuser, mais on n'en est pas responsable. En même temps, dans cet extrait, dans la bande originale de Ringo Pistolet d'Or, Johnny Oro en italien, un film de Sergio Corbucci, assisté de Ruggero Deodato avec Marc Damon, je sais pas si c'est son vrai nom, dans le rôle principal, évidemment, celui de Ringo, le redresseur de tort, pour illustrer la contribution de Carlo Savina au genre du western spaghetti. Alors évidemment, on aura reconnu plus que des influences morriconiennes dans cette partition. Et là encore, on s'amuse à égrener les titres auxquels Carlo Savina, parmi bien d'autres, a contribué, comme La dernière balle à pile ou face, avec Django, la mort est là, ou alors avec Django, la mort est là, mais vous l'avez compris, ou alors, ça je l'aime bien aussi parce que vraiment, on ne peut pas faire plus que je te copie, La brute, le colt et le karaté. Ça, il fallait le trouver d'Antonio Margheriti, encore un gros contributeur du cinéma d'épouvante. Il me semble même qu'il a tâté dans un genre propre au cinéma italien qui était le film de cannibale. Il y a eu quand même pas mal d'exemples de faux reportages avec des cannibales qui étaient bien nauséeux dans les années 70. Allez, on va faire une émission spéciale. Non, on ne va pas faire d'émission spéciale sur les films de cannibales. On va plutôt essayer de conclure cette émission consacrée à Carlo Savina, dont j'ai dit au début que non seulement il avait composé la partition d'un grand nombre de films, on va en écouter quelques extraits et échantillons, mais qu'il avait aussi contribué en tant que directeur musical à des films et à des partitions d'autres, ce qui est très beau aussi. J'ai évoqué Philippe Sard et on appréciera ou pas que Carlo Savina avait été le directeur musical de L'Ours de Jean-Jacques Hano, tourné en 1988, et donc de la magnifique partition signée par Philippe Sard pour l'occasion. Et puis, il aura largement collaboré aussi avec Nino Rota, puisque dès 1972, il fut le directeur de la musique du Parrain. Excusez du peu, mais on va se quitter avec un extrait de la bande originale d'un des plus beaux films du monde. Voilà, tout simplement. Ça s'appelle Amarcord de Federico Fellini, 1973. Si vous ne l'avez pas vu, je répète, c'est un des plus beaux films du monde, donc il faut absolument le voir. Amarcord, ça veut dire « Je me souviens » dans le patois de l'Émilie, qui est une province du nord de l'Italie, de laquelle Fellini était originaire. Et alors, évidemment, le film est largement autobiographique, mais en fait, en même temps, il est terriblement fellinien. Donc Fellini se penche avec amour, avec gentillesse, parfois avec méchanceté, avec cynisme, avec tendresse, avec tout ce que vous voulez. De toute façon, cherchez-le, il sera forcément dans Amarcord sur la vie donc, de ce bourg italien à l'heure du fascisme, quelque part dans les années 30. Il y a des moments absolument inoubliables dans Amarcord, comme le passage d'un paquebot. Si vous le voyez une fois, vous ne pouvez pas l'oublier. Bref, j'espère que je vous l'ai assez vendu, donc il faudra absolument le voir. Et évidemment, c'était le vieux complice de Federico Fellini qui s'était attelé à la musique, Nino Rota, mais avec Carlo Savina en tant que directeur musical, donc je ne voudrais pas oublier cette contribution. Donc on va se quitter avec cette musique-là. Amarcord, Federico Fellini, Nino Rota, Carlo Savina dans 24 notes secondes. Thank you. 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt. Arrivederci, bye bye.